Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la rade. On est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale, très spéciale même, avec un invité qui était attendu depuis longtemps. Et puis à en juger par les très nombreux messages reçus depuis que l'émission a été annoncée, vous aussi auditeurs, vous étiez impatients. Et donc c'est Pierre Mignoni qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Et pour m'accompagner dans cet échange, j'ai avec moi Pascal, Alex, Seb et Bastien. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Salut tout le monde.
Bon Pierre, on a bien compris que tu voulais pas venir faire cette interview avec une défaite dans la musette. Alors si on avait su, on aurait calé l'interview bien plus tôt. Là, tu viens dans des super conditions. Là, c'est royal. Deux magnifiques victoires.
Alors par contre, l'invitation, c'était la semaine dernière. Donc je ne savais pas si on allait gagner.
C'était même avant le MHR, je crois.
Ouais. Oui, on l'a pas fait au dernier moment. C'est bien de le dire.
Pierre, justement, avant d'aller sur les sujets de fond, sur l'actualité, sur les deux derniers matchs, Toulon a inscrit 100 points et peut-être réalisé ses deux meilleurs matchs de la saison. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est le retour de certains joueurs? À quoi tu attribues ces deux super matchs finalement?
Non, très honnêtement, c'est un peu de tout ce que vous avez dit. Plus quand même un truc important, c'est il faut être honnête, hein, le retour à niveau de beaucoup de joueurs.
Oui.
Parce qu'on parle beaucoup du retour, j'entends, hein, ce qui est vrai, hein, de retour de Charles Olivon, de Baptiste Sorin, des internationaux, on va dire, des joueurs qui ne sont plus blessés. Et heureusement, ça c'est une certitude, mais quand même, il y a aussi la forme de l'ensemble de quelques joueurs qui étaient peut-être moins bien, pour plusieurs raisons, on pourra en discuter sur des cas particuliers, mais voilà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le fait que, on l'avait dit, c'est que cette équipe, elle a, depuis le début de la saison, sans chercher d'excuses, elle a eu un retour du Coupe du Monde très difficile. Très difficile, pour plusieurs raisons, encore une fois, et c'est pas qu'une raison. Je cherche pas d'excuses, surtout moi en tant que coach. Je dis simplement que c'était pas simple, et que je dis pas que ça allait aujourd'hui, mais en tout cas, on a beaucoup plus de certitude qu'il y a quelques semaines. Voilà.
Alors c'était exactement ce qu'on voulait évoquer après. C'est vrai que tout le monde évidemment parle de Serein, son retour, et aussi d'Abadi, d'Olivon, de Villiers. Mais c'est vrai, nous aussi on voulait aborder ça. On a même surtout vu des mecs comme Brian Alanouessé ou Duncan Payoa qui ont joué à un niveau depuis deux matchs auquel on les avait plus vus depuis un long moment. À quoi c'est dû selon vous ce regain d'énergie ou de...
Bon, vous avez cité deux joueurs. Bon, on va éviter de parler parce que vous comprenez bien. Moi, je parle plus à mes joueurs en individuel qu'à travers un micro, mais on va y venir. Vous avez cité deux joueurs qui sont très importants pour l'équipe. Et ces deux joueurs n'étaient pas à leur niveau pour des raisons personnelles parfois, de forme physique, de blessures ou autres. Voilà, donc. Pour revenir sur Brian, par exemple, Brian a fait énormément d'efforts depuis quelques semaines, je vais dire 5-6 semaines. Donc c'est vrai que ces efforts-là, on ne les voit que maintenant, mais on ne peut pas les voir de suite. D'accord ? Vous allez me dire, mais pourquoi il a fallu qu'il fasse tant d'efforts que ça ? Parce que, je le répète, le retour de Coupe du Monde, il fait partie des joueurs auxquels le retour a été très difficile. Très difficile.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu effectivement, parce que la différence est quand même incroyable et énorme entre les deux périodes qu'on vient de vivre, est-ce que d'un point de vue pur management des hommes, on va dire ressort psychologique, est-ce que vous avez appuyé sur des points particuliers, est-ce que vous avez modifié votre approche ou est-ce que finalement c'est juste un travail qui paye comme vous le dites? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier de ce point de vue-là?
Oui, il y a eu une prise en charge. Moi, ce que pour être très clair et essayer d'être précis, quand un joueur revient de blessure, quand un joueur est en méforme ou pour plusieurs raisons, comme on a dit tout à l'heure, on organise un staff. Un staff, c'est bien sûr moi, Sébastien Bourdin, qui est le préparateur physique responsable de la perf, le docteur Didier Demoury et Sandrine Agricole, qui est la kiné responsable. Donc on essaye, avec aussi, on rajoute un ou deux prépa physique spécialisés sur ce qu'on veut. Et là, on fait un staff avec le joueur et on met un plan sur 3, 4, 5, 6 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que vous jugez les performances, et c'est normal, les journalistes, moi en tant que coach, on juge les performances du joueur à l'instant T. Mais voilà, donc ma responsabilité à moi, c'est de le ramener à 100% de ses capacités. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire Mais vous n'êtes pas au courant forcément de la démarche.
Voilà. Après, indépendamment des performances individuelles, on a remarqué quand même que les deux dernières victoires se sont construites sur la solidarité, l'agressivité, le harcèlement dans les rucks, du réalisme, c'est ce qui nous manquait parce qu'on était souvent dans les 22, manque de réalisme. Et du coup, est-ce qu'on est capable de conserver cette intensité, cette qualité-là, sur les 6 prochains matchs, voire
Alors,
plus si la phase finale?
Bastien, c'est ça?
Oui.
Quand on parle d'intensité, vous avez raison, c'est exactement ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs. Vous allez me dire pourquoi on l'a pas fait à, je sais plus lequel match, juste avant c'était Montpellier.
C'était le
J'en perds
Racing.
le.
Le
C'était le
Racing,
Racing,
ouais.
au Racing, exact. Pourquoi on l'a pas fait là? Déjà parce que pour moi l'intensité, et c'est tout le challenge de notre équipe, et elle l'a montré malheureusement depuis ces dernières saisons, c'est qu'il faut avoir l'endurance de l'intensité.
Exactement.
Voilà. Donc mon job à moi aujourd'hui, je me consacre, je passe beaucoup de temps avec ça. On se creuse la tête pour ça. C'est l'endurance de l'intensité. C'est ce qu'on appelle aussi, on peut appeler ça la consistance. On peut l'appeler comme on veut. Mais c'est un petit peu ce qu'on recherche et c'est vraiment ce qui nous manque en tant qu'équipe. Une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, mais on n'y arrive pas. Et c'est vrai. Sur la
Bon.
saison, pardon, allez-y.
Non, 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 on y arrive, hein, puisqu'à domicile, on arrivait à en avoir. On a eu, ben, après la blessure de Baptiste. Et en fait, c'est surtout à l'extérieur. Presque, on avait l'impression qu'il y avait deux visages, que les matchs à l'extérieur. En
Oui,
fait,
c'est ce que
j'ai
je dis,
l'impression
donc
que
c'est qu'on n'y arrive pas.
nous les perdions, nous, et c'est pas les autres qui les gagnaient. C'était ça qui était assez frustrant.
Je suis entièrement d'accord. Ce qui nous manque, ce qui nous a manqué, je vous l'ai dit, c'est pas que il y a l'aspect mental, comme on vient de parler, il y a l'aspect physique et forme de certains joueurs. Il y a aussi l'adaptation de changement de jeu qu'on veut mettre en place. Tout ça fait que, et c'est encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, mais les choses ne se font pas en un jour. Les choses, elles se construisent dans la difficulté aussi. Il faut que les joueurs, parce que on a changé beaucoup de choses, les méthodes d'entraînement, un préparateur physique aussi qui est arrivé. Alors, j'en ai parlé de lui tout à l'heure, Sébastien Bourdin. Donc des méthodes d'entraînement différentes. Voilà, c'est une équipe qui, pour moi, est en construction. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, ben voilà, il faut que tout ça s'apprenne. Je dis pas qu'aujourd'hui ça a pris, ça y est, tout est guéri. Non, loin de là. Par contre, aujourd'hui, il y a un truc fondamental que vous avez dit, c'est un supplément d'âme. Okay? C'est sur ça qu'il faut qu'on construise, parce que cette équipe, quand elle est allumée sur ce supplément d'âme, on le voit, ils sont connectés sur le terrain, il se passe beaucoup de choses. On fait des erreurs, on fait pas tout bien, mais il y a des choses qui se passent et plutôt bien.
Non, c'est certain, mais c'est vrai que c'est frustrant du point de vue du supporter d'être prêt à la 20e journée. Du coup, est-ce que la saison, on peut dire, est
Non, non,
allée
non, non.
sur deux ou trois saisons, en fait, si vous voulez?
Je suis
C'est-à-dire que
pas
là, on
d'accord.
est prêt, mais est-ce qu'on est prêt pour l'année prochaine ou est-ce qu'on est prêt
Non,
maintenant pour la fin de
on
saison?
est prêt maintenant.
D'accord.
Parce que l'important, c'est quoi, Bastien? C'est d'être prêt. Le plus tôt possible pour pouvoir se qualifier.
Exactement.
On est d'accord? Parce qu'après, on va le connaître, je l'espère fortement. On va le connaître depuis très longtemps, on ne l'a pas connu, mais quand on arrive dans ces moments-là, c'est une autre saison qui redémarre, c'est d'autres matchs, c'est vraiment particulier. Donc, j'ai envie de dire, moi, j'aimerais à 6 journées de la fin qu'on soit qualifié. Bon,
Oui,
y a personne qui
personne.
l'est,
Non, c'est très dense.
même si le Stade français, à mon avis, a quand même un pied. Un bon pied, on va dire. Tout le reste, vous voyez bien que c'est très serré.
Ah oui, complètement.
Donc il n'y a pas que Toulon où certainement il y a des hauts et des bas. Si on est quatrième aujourd'hui, je crois, tu perds, tu es septième. Bon, vous avez bien vu, je ne vais pas vous faire le tableau du championnat, quoi.
Pierre, je voulais vous poser la question justement. Vous avez fait pas mal de changements au niveau, au niveau tactique, au niveau stratégie. Donc, si on compare un petit peu à l'an dernier, la façon dont, en tout cas, moi, je vois les choses, c'est que une de notre force, c'était vraiment ces fulgurances, ces transitions. On avait des ballons de récupération qu'on jouait très vite ou des relances sur du jeu au pied et avec des joueurs comme Kolbe, comme Vainicolo, comme Moïséa. On allait vraiment extrêmement vite avec beaucoup de flair et de vitesse. Et là, cette année, on est passé à un style un petit peu différent. Déjà, on a recruté des grands coups de pied avec Jaminet et Hervé pour aller jouer beaucoup plus chez l'adversaire. Et après, au niveau du jeu d'attaque, corrigez-moi si je me trompe, moi, ce que je vois, c'est vraiment du jeu de position un petit peu comme on voit au football. On a des ailiers très écartés pour étirer les défenses. On fait beaucoup de jeux en retour, d'aller d'un côté et de l'autre, et beaucoup de surnombres qu'on apporte justement pour créer un petit peu des décalages de façon structurelle. Moi c'est comme ça que je le vois. Alors déjà, pourquoi ce changement philosophique, ce changement de direction, et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi au niveau de la stratégie de l'attaque pour qu'on comprenne encore un petit peu plus?
Non, ça, c'est très simple. L'année dernière, moi, quand je suis arrivé, on a fait, avec Franck, on a essayé de faire un jeu plutôt ambitieux, parce que bon, sans dévoiler de secrets, mais il y a des systèmes de jeu, vous savez, sur la répartition des avances, qu'on appelle un 3-3-1, un 3-2-1, 2-4-2, enfin, il y a plusieurs sortes de systèmes de jeu d'attaque. On a favorisé un système l'année dernière, mais on n'était absolument pas prêt.
D'accord,
moi j'ai fait. Faut comprendre que j'ai quand même fait un petit audit quand je suis arrivé, et Franck était déjà là. Il m'a dit, tu vas voir, il y a du boulot, quoi.
D'accord.
Et je c'est pas pour dire que c'était pas bien avant ou quoi que ce soit. Enlevez-moi l'idée de dire ça. Je pense qu'on a changé déjà l'année dernière, avec Franck aussi, on a changé vraiment nos méthodes. Mais il a fallu que les joueurs s'adaptent aussi à ces méthodes-là. Et bon, pour revenir à cette année, où je pense que l'année dernière, on a gagné du temps un petit peu. On a gagné un peu du temps, ou du moins on a rattrapé ce qu'on voulait sur le plan physique et technique aussi de certains joueurs, de l'équipe d'effectifs aussi. Parce que ça aussi, je trouve qu'en termes d'équipe d'effectifs, on était un peu en retard, en termes de GIF, en termes d'équipe, quoi, ce que j'appelle moi d'équipe. Donc il y a eu un recrutement cet été, bon, il y en aura encore un cet été. Ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire en termes de jeu, pour répondre à votre question, c'est que j'ai pris cette année, bon, avec le départ de Franck, parce que malheureusement, ce n'était pas prévu, on devait continuer et revenir dans cette étape qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu plutôt ambitieux, c'est vrai, assez ambitieux, où on demande beaucoup de déplacements sans ballon, où on demande de mettre nos joueurs dans des situations, comme vous avez vu, sur certains matchs, sur des situations de 1 contre 1, où on est capable de mettre ses défenses à revers. Mais pour ça, ça demande une forme physique importante de la part de nos joueurs, parce que forcément, si tu ne te déplaces pas sans ballon, tu ne peux pas créer d'incertitude sur ces défenses qui sont bien organisées. Donc, mais en même temps, c'est là que je veux en venir, donc il est arrivé Andrea Massi, si je l'ai recruté, c'est que j'avais la même philosophie par rapport au jeu de trois quarts, que je connais bien, parce que j'entraînais quand même les trois quarts longtemps ici à Toulon et ailleurs. Donc, on voulait créer un peu cette philosophie-là, mais ce que j'ai dit avec Andrea, hein, ce qu'on s'est dit, c'est que tout système de jeu doit être réajusté. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec, quand je dis réajusté, en fonction des forces que tu as, en fonction des ailiers que tu as, en fonction des centres, etc., etc. Alors, tu peux pas modifier ton système de jeu parce que tu as le retour de tel joueur, ou vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi que ces joueurs-là s'adaptent à ces systèmes-là sans les mettre dans des cases et qu'on ne voit plus leur talent. Et c'est un peu ce qui s'est passé au retour de Coupe du Monde, où il a fallu que certains joueurs s'adaptent un petit peu à ce qu'on leur demandait de nouveau. C'est une réalité. Ces joueurs-là étaient un peu, ouais, peut-être un peu déboussolés. Et une fois qu'ils ont compris le système, une fois qu'on a réajusté le système aussi, je parle coach et joueur, ben on trouve une certaine, parce que le but c'est quoi? Une certaine liberté avec le talent. Le but c'est que je prenne mon joueur qui joue trois quarts, le centre, etc., qui soit à 100% de ses capacités dans le système de jeu. C'est-à-dire libérer le talent qu'on a dans notre équipe à travers un système de jeu et pas l'inverse.
Et quel genre de réajustement justement vous avez fait?
C'est des réajustements, c'est des détails, c'est le... On m'a demandé, parce qu'il y a eu des débats, je sais, sur les ailiers. Les ailiers, c'est vrai qu'on leur demandait de basculer beaucoup plus, de jouer avec les centres. Aujourd'hui, on leur demande d'être beaucoup plus mobiles autour du 9, autour du 10, leur laisser cette liberté pour qu'ils puissent, eux, avec leur talent, avec une bonne lecture, trouver ces espaces-là. Mmh. Voilà, par exemple, c'était un réajustement comme ça.
D'accord.
Il n'y a pas eu que ça, mais je trouve que c'est... C'est important, nous, en tant que coach, de réajuster par rapport à ce qui doit être bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas parce qu'on a uniquement un tel à une aile, parce que si ce joueur, si ce joueur-là est blessé,
bien sûr.
Ouais, je veux dire, il faut que ce soit adaptable à tout le monde.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, je pense qu'on est, en train de trouver notre équilibre. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne l'a pas trouvé avant ?
Ça prend du temps.
Oui, mais ça prend du temps. Sauf qu'entre-temps, il faut gagner des matchs, je comprends, il faut des points. Bon, aujourd'hui, on n'est pas à la rue. Hein. On n'a jamais été, je pense, depuis le début de la saison, même si on n'est pas content sur le contenu, et moi le premier. On ne s'est jamais retrouvé 13e, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je voulais justement revenir sur la période un petit peu difficile où on a perdu 10 matchs sur 13, pour lequel justement, moi, je trouvais que le jeu d'attaque était bien en place. Mais pour moi, un des gros problèmes, c'était les rucks. Et je pense qu'on l'a bien vu au niveau de la Coupe d'Europe, notamment quand on a joué le Munster, quand on a joué Northampton. Je trouvais qu'on avait un pack très puissant. On gagnait les mêlées, on gagnait les mauls, etc. Mais au niveau des rucks, on avait cette demi-seconde de retard, de manque de connexion, qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment mettre notre jeu en place. Alors, à votre avis, c'est dû à quoi ? C'est dû à une question physique, une question mentale, ou alors c'est une question de squad et de profil de joueurs, ou peut-être qu'il nous faudrait des joueurs un petit peu plus dynamiques ?
Non, je reviens sur la question mentale. Déjà, c'est que quand tu y mets... parce que les rucks, il y a un côté très technique dans les rucks. Il y a un côté aussi d'envie. Hein. Il ne faut pas se cacher. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu envie. Mais par moment, il a manqué d'intensité. Je reviens sur l'intensité qu'on disait tout à l'heure. Il est clair et évident qu'on n'a pas d'excuse. C'est que par moment, on a manqué d'intensité. D'accord ? Dû à la forme physique, dû à plein d'autres facteurs. Mais... voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu un manque de confiance aussi. Il est arrivé après les matchs de Coupe d'Europe, vous avez raison. On était plutôt sur une bonne dynamique. Et on a eu ce match contre Exeter, c'est ça, où on perd à la fin. Ce match-là, il nous a fait mal. Je ne l'ai pas mesuré dans le sens où il allait vraiment nous impacter pour la suite. Et il a impacté ce match. Il a impacté plutôt négativement.
Avec la blessure de Serin aussi en plus.
Oui, alors tu perds en plus un joueur important, mais quand même. C'est vrai que Baptiste est. Mais on n'a pas d'excuses, pardon. On n'a pas d'excuses par rapport à son absence aussi, quoi.
peut-être juste, j'en profite pour enchaîner sur un point qui est assez proche, c'est que dans le staff aujourd'hui, contrairement à d'autres clubs comme le Stade Français ou Toulouse, il n'y a pas d'entraîneur attitré de la défense. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez évoluer l'année prochaine, ou est-ce que vous souhaitez vraiment garder un groupe et un staff très resserré comme il est aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer, ça?
Alors la défense aujourd'hui, c'est moi qui l'a fait aussi, c'est moi qui l'a fait, pour être très clair.
Tout à fait.
Je fais pas que ça, mais je fais entre autres ça, mais j'aime bien, moi vous savez, j'ai un fonctionnement où j'ai du mal à mettre des gens que dans des cases. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous dis vous allez faire que de la défense, ou que de la touche, ou que de la mêlée, alors on a des gens qui sont spécifiques, hein. Vous le savez, on a Sergio Parisse qui... forcément, c'est lui qui fait la touche plus que moi, forcément. Mais quand même, Sergio, il ne fait pas que la touche. On a Eric Dassalmartini qui s'occupe de la mêlée. Eric ne fait pas que la mêlée. J'ai du mal, si vous voulez, à mettre des gens dans des cases.
De la polyvalence,
ne
en fait.
Pas parce que, par expérience, je sais que ça crée beaucoup de frustration. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on se met dans « Ah oui, mais on est la meilleure attaque. Ah oui, on est la meilleure défense. Et moi, vous voyez ce que je veux dire ?»
Donc, ça peut créer des tensions entre les gens, c'est ça ?
Ouais, c'est pas des tensions, c'est pas ça le problème. C'est mon secteur, vous voyez, je m'occupe que de moi. On est dans un monde où on s'occupe beaucoup de l'individu. Quand je dis qu'on s'occupe, parce qu'on en parlera après sur la gestion des joueurs, aujourd'hui on est très centré sur l'individu. Sauf que moi je veux un staff collectif. Voilà, donc pour répondre à votre question concrètement, est-ce qu'on aura une personne qui peut s'occuper uniquement de la défense ? C'est pas impossible qu'il y ait un recrutement, mais il n'y a rien de décidé aujourd'hui. Ça va dépendre un petit peu de mon rôle aussi, où je suis beaucoup aussi dans le club. Voilà, donc on verra.
Oui, voilà, la décision n'est pas prise. Mais en tout cas, c'est intéressant, effectivement, toute cette polyvalence dont vous parlez. Peut-être juste un point, on en a déjà parlé, mais je voudrais juste revenir sur des déclarations que vous avez faites sur le manque de leaders dans le groupe. Vous aviez dit, des leaders, ce sont des garçons qui se régulent entre eux, qui prennent l'équipe sous contrôle. Tu vas leur donner des indications, ils doivent les diffuser très fort aux autres. D'ailleurs, j'attends un leader qui montre l'exemple et impacte quand il n'est pas sur le terrain. C'est inné chez certains, ça se développe chez d'autres. Est-ce que vous faites vraiment passer un message là à vos joueurs? On sait qu'il y a des joueurs qui sont assez naturellement leaders. On a parlé de Baptiste Serin. Mais voilà, est-ce que vous en manquez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette dimension?
Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Je trouve que les joueurs qui sont arrivés cette année ont un vrai impact sur ça. Et je parle des joueurs qui sont là depuis que quelques mois. Vous allez me dire, mais ceux qui étaient là avant, non, ceux qui étaient là avant, c'est Charles Olivon, bien sûr qu'il a un impact. Mais Charles est beaucoup en sélection, vous le savez, c'est pas sa faute. Hein. Baptiste est là, oui. Mais aujourd'hui, on a des garçons comme David Ripens, fait partie des groupes de leaders, des joueurs qui sont importants, mais des joueurs qui sont à peine arrivés. Esteban Abadi, Ben White, Paolo Garbisi dernièrement. Quand je dis leader, attention, il y a le leader d'équipe, il y a le leader de jeu. Pour moi, le 9 et 10, ce sont des leaders, forcément de jeu. Voilà, donc aujourd'hui, mon but, c'est quoi? C'est de continuer à développer ces joueurs-là pour qu'ils aient un impact beaucoup plus fort sur l'équipe. Et ça se développe. Encore une fois, un Sergio Parissé qui a 37 ans, 38 ans, 39 ans, qui est dans ton équipe, comme l'année dernière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un vrai moteur. Quand on a un Sergio Parissé et un Mathieu Bastaro, c'est plus facile de parler d'eux parce qu'ils sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Mon rôle à moi, c'est de les connecter entre eux. L'année dernière, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire, de bien se préparer pour cette finale, etc., pour gagner enfin ce titre. On a fait un gros travail là-dessus. Voilà. Donc, je pense sincèrement que le travail de nos leaders est en train de prendre forme. Et par contre, je suis persuadé que la saison prochaine, il sera plus fort.
Lorsqu'il y a eu les réunions avec les supporters en fin d'année, vous leur avez expliqué vouloir rebâtir l'équipe sur une identité toulonnaise très forte.
Oui.
Et nous, il y en a un qui nous vient à l'esprit, c'est un jeune Toulonnais, c'est Mathias Alagahu. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir les qualités pour être un leader? On le voit pas mal haranguer les joueurs sur le terrain. Il aurait un profil, lui, de futur capitaine?
Oui, je l'ai déjà dit. Mathias est capable, déjà un leader de touche, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il peut être capitaine. Je parle de leader, de leadership. Il a vraiment un talent sur ça. Il le développe facilement. Pour moi, vous verrez, je ressens un peu les choses. C'est quelqu'un qui entraînera la touche plus tard. Après, à la fin de sa carrière, vous avez déjà un coach de la touche dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, je lui souhaite, pas de suite. Donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mathias, Alagahu, et je le dis sans trahir le vestiaire, il fait partie du groupe des leaders. Parce qu'il y a le leader d'aujourd'hui, Charles Olivon, tous les joueurs qu'on a cités un peu tout à l'heure, il y a les joueurs qu'il faut développer à l'être demain. Donc ce joueur-là, il fait partie déjà des réunions de leaders.
Et voilà, le fait qu'il soit toulonnais, cette identité toulonnaise qui nous tient à cœur, on a racheté le contrat de Jaminet, qui est toulonnais, qui revient au club. Michael Ivaldi, il y a une rumeur, enfin, c'est pas officiel, mais devrait revenir l'année prochaine. Je sais pas si vous pouvez nous le confirmer ou pas. Est-ce que vraiment on essaie de bâtir l'équipe en intégrant le plus de jeunes toulonnais et en essayant de ramener d'anciens toulonnais? Ou pas spécialement?
Alors, il y a deux choses. Il y a le leadership. On n'a pas besoin d'être toulonnais pour être un leader. Ça, c'est la première des choses. Je suis désolé, je suis toulonnais. Oui, oui, oui. Je peux le dire un peu plus facilement.
Dommage.
On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être toulonnais. Par contre, on parle d'identité. Et ça, l'identité, c'est important. L'identité, c'est quoi? Quand on parle d'identité du club, c'est connaître son club. Connaître l'histoire. Accepter l'héritage qu'on a. Effectivement, quand on est toulonnais comme Mathias ou d'autres, forcément, tu l'as en toi parce que tu as été éduqué rouge et noir. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai commencé le rugby à 6 ans à Toulon. J'y ai joué toute ma vie. Après, je suis parti, mais je suis revenu. Peu importe. Mais j'ai eu cette culture toulonnaise. Donc, vous pouvez me parler du club. Je connais pas tout par cœur, mais je connais. J'ai été entraîné par Marcel Bordero. J'ai été entraîné par des gens qui ont transmis ce que des gens avant leur ont transmis. jusqu'à l'histoire de Félix Mayol et compagnie. Donc on connaît tout ça. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de transmettre ça aux joueurs, de le faire comprendre. Et de faire comprendre ça, notre histoire, c'est pas mettre en lumière que le passé. Parce que vous voyez ce que je veux dire, quand on met en lumière que le passé, quand on radote un peu ça, on se pénalise.
On
ne
projette
un peu
pas, non, c'est sûr, il faut se projeter sur l'avenir avec des joueurs justement qui représentent à la fois le passé et le futur. Ça, je suis complètement d'accord avec ça.
C'est ça. C'est ça. Donc croyez-moi, sur l'histoire du club, on fait le maximum et on peut faire mieux sur cette transmission pour qu'un joueur Ribans, qui n'a absolument rien à voir avec Toulon, quand il arrive ici, vous l'avez déjà vu sur d'autres joueurs avant, eh ben, que ce jour-là, il comprenne où il est. Il est toulonnais, dans quel environnement il est. Parce que c'est ça le but. Et on a eu un joueur comme Eric Melvis, ça a été un des premiers étrangers à arriver. Eric Melvis, c'était le plus toulonnais d'entre nous. Donc ça veut dire quoi être toulonnais? Ça veut dire respecter les valeurs de nos anciens, de combat, de valeurs, de... Voilà.
Quand on a juste parlé d'Ivaldi, vous avez hoché la tête quand même, hein, donc ça semble en bonne voie.
Mais Mika, c'est un joueur que je connais bien. Voilà, c'est un joueur qui... Je n'ai pas envie de confirmer aujourd'hui qu'il va arriver. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. On pourra en parler. Bien sûr, je donne mon avis, c'est évident. Mais j'y suis fortement intéressé de plus en plus parce que, je répète, il faut rééquilibrer notre équipe. Donc, il faut bosser.
On entend dire souvent que Toulon n'est pas formateur, ce qu'on trouve faux, nous, hein, en tant que supporters. Et notamment, il y a un poste où on s'est retrouvé un peu en difficulté depuis 2-3 ans. Alors, c'est entre guillemets, hein, c'est le poste d'ouvreur. Et on voit qu'il y a plein de jeunes qui ont été formés à Toulon, qui sont titulaires ou titulaires bis dans d'autres clubs de top 14. Louis Lebrun, Léo Berdeux, Anthony Belot, Carbonel. C'est dommage quand même que... C'est pas vous, hein, mais que le club n'ait pas réussi à les garder et du coup de conserver ses joueurs. Alors,
quand vous prenez un club comme le Stade Toulousain par exemple, on ne parle pas trop de leurs joueurs qui partent et qui réussissent ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup, hein, aussi. C'est pas pour nous comparer à Toulouse, parce que chaque club est complètement différent. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un poste comme ça d'une génération au poste de 10, où il y a un joueur qui à l'époque c'était, je crois, Carbonel, par exemple, que la même génération, quasiment, vous avez Léo Berdeux, vous avez Mathieu Smiley, vous avez plein de joueurs qui sont... Il faut faire des choix, et peut-être qu'à l'époque, le club a fait des choix sur des profils d'années d'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu as deux ans de différence, c'est pas énorme. Donc, il y a des joueurs qui se disent, moi, je jouerai pas parce qu'il y a tel joueur à ce poste-là, donc je m'en vais, et je vais réussir ailleurs. Léo Berdeux, moi, il était à Lyon, je sais pas comment il est arrivé là. Je l'ai récupéré à Lyon.
Il l'a récupéré à Toulon.
Je savais qu'il était du coin, qu'il était de Vernis là-bas, pardon. Je ne veux pas déformer le nom, mais il est plutôt niçois que toulonnais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a joué à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il devait être peut-être en concurrence avec un joueur comme Carbonel. Je ne sais pas qu'il est parti, il est tenté ailleurs. J'en sais rien.
Mais quand vous revenez à Toulon, je me souviens à l'époque que les départs de Carbonel et de Bello étaient déjà actés. Vous étiez arrivé juste après. Derrière ça, quand même, on le paye assez cher, ce double départ, non, qui n'était pas forcément prévu. Mais j'ai l'impression que depuis, on court un peu après cette stabilité à ce poste-là.
Oui, enfin là, je pense qu'on l'a trouvé.
Ça y est, oui.
Je pense qu'on a recruté un très bon joueur qui s'appelle Paolo Garbici. On a Dan Bigard qui est en train de revenir. On a Enzo Hervé qui a fait quand même une bonne saison, alors qu'il est plus en difficulté là, parce qu'en plus il est blessé. Mais voilà, est-ce qu'on l'a payé?
Mais après, Pierre, sur Paolo Garbisi, c'est vraiment un très bon joueur. Il a fait un super tournoi, c'est une très bonne pioche. Mais du coup, c'est dommage. Quelque part, qu'on se mette en difficulté sur ce poste de talonneur. Alors, on sait que Tolofoa voulait partir, c'était un souhait de sa part, ça a été clarifié. Mais c'est vrai que là, du coup, on se retrouve peut-être un peu dans le jus jusqu'à essayer des joueurs qui ne sont pas formés à ce poste-là. Enfin, on a vu Brooks essayer de le lancer. Est-ce que c'était l'opportunité d'avoir Garbisi? Comment ça s'est un peu passé, cette histoire?
Bastien, j'étais complètement contre le départ de Christopher. J'en ai déjà parlé par rapport à ce que vous dites sur l'équilibre d'équipe. Mais à un moment donné, voilà, oui, on est face à faire des choix. les choix, on les fait. Après, on a quand même un jeune Pierre Damon qui est là au club, qui s'entraîne avec nous. Vous ne le voyez pas encore sur le terrain, mais qui là, si on avait eu des blessés ce week-end, il pouvait postuler dans les 24, dans les 23.
Oui, bien sûr.
On fait, voilà, on peut faire des choix aussi et faire confiance à nos jeunes. On nous tire dessus des fois qu'on dit qu'on n'a pas. Bon, qu'on ne fait pas jouer les jeunes. Là, qu'on essaye de. Bon, alors, on peut me dire par défaut, parce qu'il y en a un joueur qui est parti, mais c'est des joueurs qu'on prépare quand même. C'est des joueurs qu'on prépare à jouer, à faire jouer. Alors, après, on a aussi la possibilité, effectivement, de faire Bekaj Gelvili au talon, Kyrian Brooks qui est capable aussi d'y jouer. On verra, en fonction de l'adversaire, du choix qu'on fait.
Et bon, évidemment, quand on parle de tous ces départs-là, je peux pas ne pas vous reparler au moins une fois de Carbonel. Vous la comprenez, cette colère? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que ça dure aussi longtemps quand il est parti?
Alors, c'est difficile pour moi de dire ce qui s'est passé, pas passé, parce que je n'étais pas au club déjà, je ne veux pas me défiler. Si j'étais là, je vous dirais qu'est-ce qui s'est passé, point barre. À partir du moment où un choix a été fait des deux côtés, parce que j'entends dire un peu tout et n'importe quoi. Louis a aussi émis le souhait de partir à un moment donné, pour ses raisons, et etc., etc. Donc, est-ce que ce départ-là, je le comprends? C'est comme ça. Ça s'est fait. Aujourd'hui, j'ai même dit que si un jour, oui, Louis Carbonel pouvait revenir au club, on fera tout pour le récupérer. Un jour. Mmh. Voilà, pas maintenant, parce qu'il est sous contrat, donc il faut respecter, même si on sait que les contrats se rachètent et tout, ce n'est pas le sujet d'actualité d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, parce qu'on a déjà des joueurs à ce poste-là. Mais il est évident que si demain, quand je dis demain, c'est dans un futur, ben Louis Carbonel veut rentrer à Toulon et que Toulon est en passe de pouvoir le prendre dans son effectif, peut-être que ça se fera, il faudra rattraper le coup. Maintenant, quand je dis faut rattraper le coup, c'est même pas rattraper le coup, c'est faire revenir quelqu'un qui a envie de jouer ici, qui est toulonnais, etc. Mais maintenant, il faut arrêter, quoi. Quand je dis il faut arrêter, c'est qu'il faut arrêter de parler sans arrêt de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent à ce poste-là. Mmh. Mettez-vous à leur place. C'est que vous ne vous sentez pas désiré par vos propres supporters, mmh, ou par votre propre président ou votre propre entraîneur. À un moment donné, il faut respecter les gens. Il y a des choix qui ont été faits dans le passé. Et je pense que ça a été fait par les deux parties. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Maintenant, si vous voulez qu'on parle que de ça, ben, je pense que c'est une erreur.
Mais en tout cas, ce qui était, votre parole était quand même attendue là-dessus. Et c'est vrai que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand il y a eu la réunion avec les supporters, c'était peut-être la première fois où vous le disiez publiquement, de dire oui, si on peut faire revenir Louis Carbonel, on le fera. C'est une façon, quelque part, de lui dire aussi, peut-être, attends la fin de ton contrat.
Dans l'avenir.
Attends la fin de son contrat, bien sûr.
Dans l'avenir. Non, mais parce que dans l'avenir, si on prend l'avenir de notre équipe, on a Dan Bigard qui est un joueur à qui il reste un an de contrat l'année prochaine. Bon, voilà, c'est un joueur qui sera remplacé, ou, oui, je veux dire, ça peut être là, ou ça peut être plus tard. Ça peut être Louis, peut-être qu'il n'aura pas envie de revenir de suite. Ça, c'est des choix de carrière. On ne peut pas tout prévoir.
C'est très clair. Sur la partie, vous avez commencé à effleurer le sujet des supporters. Je voudrais qu'on y vienne. Alors, c'est peut-être un sujet qui est un petit peu plus polémique, mais justement, on voudrait en parler de manière très... très dépassionné entre nous, c'est de comprendre un petit peu votre avis par rapport à un sujet. Alors, je vais prendre un passage de la lettre ouverte qui a été diffusée pour illustrer mon propos. Dans cette lettre ouverte, il était écrit « Nous ne pouvons plus concevoir d'être qualifiés de pseudo d'ennemi du club. »
Stop. Avec une volonté. Excusez-moi, je vous coupe parce que pseudo-supporter, j'ai absolument jamais dit ça de ma bouche.
Alors, justement, c'est pour ça que je...
Moi, ça me fait déjà mal au cœur.
Alors justement, c'est exactement ce que je veux évoquer avec vous et pour qu'on puisse en parler. Vous avez, vous, de votre côté, plusieurs fois dit que vous compreniez, alors je vais laisser l'extrait de côté parce que vous avez plusieurs fois dit que vous compreniez que les gens sont en colère, que vous compreniez même, vous l'avez encore dit très récemment lors de la réunion en question, que vous puissiez comprendre la colère de certains par rapport à ce qui se passait à certains moments, par rapport au club, etc. Mais il y a quand même eu, de la part du club en général, de diverses personnes dans le club, quelques tacles vis-à-vis de certains supporters. Donc, sans parler de pseudo, quel est votre avis par rapport à ça? Et juste qu'on puisse clarifier ce point.
Bien sûr, il faut être précis dans ce qu'on dit. Pseudo supporter, depuis que je suis à Toulon, je ne l'ai jamais entendu. Alors peut-être vous me parlez d'avant, j'en sais rien. C'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné...
D'accord, laissons effectivement ce point de côté, je suis
d'accord
avec
vous. Important, c'est important parce que de ma bouche, je ne l'ai jamais dit et je n'ai jamais entendu le président Bernard Lemaitre le dire depuis que je suis au club. Et honnêtement, je suis honnête. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce terme-là parce que déjà, ce n'est pas beau. Okay. On a des supporters, d'accord ? Et les pseudo-supporters, ça n'existe pas. On a des gens qui sont contents, on a des gens qui ne sont pas contents. Ça, je le comprends à 200%. Et ça se respecte. Quand les gens ne sont pas contents, et c'est normal, hein. Vous croyez que je suis content, moi, des fois, je suis le premier, ou croyez-moi, ça peut leur faire drôle, des fois. Hein. Et si vous êtes supporter et passionné, comme c'est le cas, eh ben, des fois, on réagit. La passion, elle fait réagir d'une certaine façon, des fois. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit constructif et qu'on puisse débattre et comprendre pourquoi. Voilà.
En fait, ce qui est beaucoup apparu ces derniers mois dans toutes ces tensions, c'est qu'il y a parfois un amalgame en fait entre des supporters vont critiquer la prestation de tel joueur ou sont pas contents du staff ou de la direction et on leur dit quelque part un supporter doit supporter sinon vous vous en prenez à l'institution RCT. Vous comprenez la distinction finalement entre
non, ouais je comprends. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pour moi un supporter. Et on est à Toulon,
voilà.
Quand même, hein.
On est d'accord.
Même ailleurs.
Hein. Ouais, c'est un peu plus à Toulon, quand même.
Non, mais même ailleurs, ne croyez pas. On se prend des fois pour des gens différents. On manque un peu d'humilité par rapport à ça, croyez-moi. Même ailleurs, quand les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Donc, il n'y a qu'un truc qu'il faut bien comprendre. Quand on est content aussi, on peut le dire aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé un matin, j'arrive tous les matins à 5h30. Je suis arrivé un matin, franchement, il m'est venu les larmes aux yeux. Et je le dis avec... honnêteté. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais une pancarte énorme, ce qu'on appelle les banderoles, là. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage, parce que dans notre sport, on ne le voit pas trop, on le voit malheureusement dans notre sport. Je dis malheureusement, parce qu'en termes d'image, c'est plutôt moyen. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de montrer ou de mettre des stickers sur Mayol. Ça m'avait d'ailleurs fait réagir, souvenez-vous, et je l'assume complètement. J'avais parlé avec les clubs de supporters, ça s'était bien passé, j'avais expliqué pourquoi c'était pas bien. Parce qu'on met pas des stickers sur Mayol. Ouais, je veux dire, on vient en réunion supporter, on s'engueule, on dit les choses, on explique. J'essaye d'expliquer, en tout cas, le sportif du mieux possible. Je fais des erreurs, je l'explique. Ok, mais trouver des banderoles, demain, ça va être quoi? On met le feu? Ouais, je veux dire, on va dans des dérives qui sont, à mon avis, pas bonnes pour les valeurs de notre sport parce que on n'a pas été construit comme ça. Et vous voyez là, quand les choses se passent mieux, ben je trouve que les personnes concernées ou pas ne mettent pas non plus une banderole pour féliciter les gens. Ne mettent pas non plus une vidéo ou un post ou ce qu'on veut pour dire ben, on est content, super. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut reprocher. Quand on invite les gens à venir à une réunion, il faut venir. Il faut venir. Parce que si on peut envoyer une lettre anonyme. Oui, elle était très bien d'ailleurs. C'est une lettre plutôt... écrite très intelligemment. Elle était bien écrite, elle était. Mais je l'ai trouvée dans un contenu pas assez relevé, et surtout dans le débat. Il faut venir. Voilà, mais venir, ça ne veut pas dire se battre, hein, c'est pas ça.
C'est discuter comme on le fait là.
C'est ce qu'on est en train de faire, c'est discuter.
Exactement, et c'est
voilà,
très
et dire,
intéressant.
Okay, là, on s'est trompé. Là, on s'est trompé. Là, on doit aller là. Là, je suis désolé, c'est vous qui vous trompez, mais c'est pas vous ou nous, c'est ensemble qu'on doit savoir où on va.
Justement, Pierre, pour continuer sur ce sujet,
merci.
J'aimerais te dire que bah, pour moi, le RCT, ça représente bien plus qu'une équipe de rugby, pour nous tous ici d'ailleurs, c'est une fierté, c'est notre ADN, notre enfant, notre ville. À titre personnel, le RCT, c'est toute ma vie, je vis pour le RCT, je mange RCT, je dors RCT, ce club, ça a été mon médicament quand je n'allais pas bien, ce stade, c'était mon sanctuaire pour mes moments difficiles. Et oui, quand Toulon perd, j'en dors pas de la semaine, ça c'est sûr. Et quand les joueurs ne se battent pas sur le terrain, c'est mon honneur personnel qui en prend un coup. Alors je sais que c'est un peu extrémiste et je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas apprécier ça, mais je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Mais ça blesse particulièrement quand j'entends certains présidents de groupes de supporters, par exemple, dire que le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est la bière après le match. Est-ce que tu partages, toi, ces idées? Comprends-tu ce que le club y représente pour nous?
C'est Seb, c'est ça? Oui, Seb, tu sais, j'ai été supporter comme toi. Mon père, c'est un ouvrier, on venait au stade. Donc ce que tu ressens, j'ai encore mon père qui m'appelle tous les jours et presque il m'engueule. Hein. Non mais je vais être très clair, je comprends à 200% quand tu me dis qu'on perd, je le sais, quand ton père, lundi, vous croyez, ça fait la gueule au bureau, ça fait la gueule au Morion, ça fait la gueule au cours Lafayette, c'est pas la même vie, parce qu'on est formaté comme ça à RCT, et qu'effectivement, la ville, elle vit à travers cette équipe, à travers ce club. Donc est-ce que j'en suis conscient? Oui. Moi, personnellement, j'en suis conscient. Et mon rôle, c'est que les joueurs ressentent cette responsabilité, cette mission pour laquelle on a la chance de participer. Et pour répondre un peu plus précisément à ta question, quand tu dis que les joueurs, ben, quand ils ne s'envoient pas sur le terrain, c'est un peu ce que tu dis, je le comprends. Mais je te réponds aussi que l'exigence, elle est là, et que les joueurs, les coachs, le président, tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais que je suis persuadé que notre équipe, elle doit être formatée avec des gens qui sont responsables, des gens qui comprennent la mission dans laquelle on est porté, enfin on doit porter. Et voilà, après, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne peut pas faire 26 matchs de très haut niveau, ça n'existe pas, il n'y a aucun club qui va te le faire, parce que c'est très dur, le top 14, c'est un championnat très difficile, et surtout sur une année de Coupe du Monde. Voilà. Donc, ce n'est pas une excuse. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des baisses de régime, on peut avoir des matchs, on va dire des non-matchs. Ok, ça peut arriver, mais il faut en arriver le moins possible. Il faut être beaucoup plus régulier que ce qu'on a été. Voilà.
Justement, sur ces tensions parmi les supporters, on a l'impression effectivement que en ce moment c'est un peu cassé en deux. Avec, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Je sais pas si vous le ressentez pareil. J'ai l'impression qu'on a un peu les jeunes, notamment sur Twitter, qui se tiennent hyper informés, qui regardent tout ce qui se passe et qui eux sont un peu plus en colère, et une population un peu plus âgée, un peu plus sur Facebook notamment, qui eux prennent ça avec un peu plus de recul, de légèreté. Est-ce que du coup aujourd'hui il n'y a pas un risque que le club, quelque part, se coupe un peu de cette jeune génération qui doit demain, hein, venir au stade et être un peu les supporters de demain? Est-ce qu'on arrive à leur tendre la main finalement et à
Mais
renouer le dialogue avec eux?
il faut, moi je vous dis, hein, je reviens un petit peu sur l'invitation que le président a fait là. Je trouvais qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y a eu du monde, mais il y aurait pu avoir peut-être plus de monde. Alors c'est dommage, mais je pense qu'il faut le refaire, il faut le faire peut-être deux fois, trois fois par an. Il faut que les clubs supporters, on les voit. Et je suis prêt à le faire, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Hein. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je le fais volontiers. Je vais le faire, je le fais volontiers parce que c'est important. C'est important de recréer ce lien. Okay? Mais on ne dira pas des choses pour faire plaisir. On dira des choses dans la situation où on doit aller. En tout cas, notre avis, comment on y va, pour que tout le monde soit conscient qu'on va dans une certaine direction. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Je pense que même le président l'a dit. Alors, c'est toujours repris, vous savez, c'est toujours repris ce qu'on dit. Ou c'est repris que sur des petites phrases, que des petits mots, vous voyez? Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un pas, oui, pour répondre à la question, il faut faire un pas, même plus, sur tout le monde, sur tous les supporters, pas que les jeunes ou. Il faut pas créer de fissures. C'est pas
Oui,
possible.
puis on sent ce besoin d'unité, en plus avec des résultats qui reviennent, il semble essentiel pour aller à l'étape d'après, quoi. Est-ce que je voulais juste revenir là sur un point que vous évoquiez, c'était la communication. C'est assez intéressant. Pendant la période qui a été un peu compliquée, on va dire de décembre à mars, vous avez beaucoup, beaucoup été quasiment le seul à prendre la parole. Nous, ça nous a beaucoup surpris dans les causeries, on en a beaucoup parlé, parce qu'on trouvait que ben, c'était peut-être un petit peu difficile à gérer, plus tout le reste, hein, parce que la situation n'était pas facile à gérer, il y avait beaucoup à faire. Et du coup, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la parole, hein, comme le président, comme M. Emmanuelli. Et finalement, vous vous êtes retrouvé pendant une assez longue période quasiment le seul à communiquer. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer à l'avenir avec tout le
Oui.
staff? Parce que je pense que nous, on a trouvé que c'était difficile pour vous-même.
Ouais, c'est difficile. Moi, j'aime bien quand ça va pas assumer mes responsabilités et protéger un petit peu. Peut-être j'aime, c'est un peu mon tort aussi. Hein, protéger peut-être mes joueurs, c'est beaucoup par rapport aussi à l'histoire du SMS que vous savez très bien. Non, mais on va y revenir. Je sais que vous allez me poser la question, mais Mais oui, peut-être qu'on a une communication qui doit être beaucoup plus diffusée par les personnes, quelques personnes. Je pense aussi à Mathieu Bastareau, qui est un joueur quand même,
Tout à fait.
quelqu'un important dans l'équipe, sur lequel je m'appuie beaucoup, qui peut aussi communiquer. C'est des choses auxquelles effectivement, on doit s'améliorer et retravailler.
Vous l'avez dit en début d'interview, et justement, on voulait l'évoquer. À la dernière intersaison, vous aviez dit on est en train de rééquilibrer l'effectif, mais c'est compliqué, on ne peut pas tout faire avec le salary cap, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez repris déjà l'effectif, pour vous, il était déséquilibré? Sur quel niveau il était déséquilibré? Et qu'est-ce qui vous reste à
Non,
accomplir
mais
finalement?
oui, pour moi, tout ce qui est, quand je dis équilibré, c'est masse salariale, c'est tout ça, et on a fait, c'était le, comment dire, l'économie du moment. Voilà, moi je trouvais que c'était déséquilibré par rapport à l'expérience que j'avais, et c'est ce qu'on a, il y a eu un gros travail de fait, où vous l'avez certainement vu l'année dernière, il y a des joueurs qui ont re-signé sur une durée un peu plus longue, où on a rééquilibré un petit peu les salaires, hein, beaucoup plus d'homogène, avec des genres de, pas de grilles, mais vous voyez, une certaine politique de salaire pour trouver justement un équilibre dans notre masse salariale, par exemple. Oui, c'est des choses qu'on a fait et qu'on est en train encore de continuer. On peut
Alors,
plus retrouver en gros un déséquilibre, un gap énorme entre les uns et les autres. Ça, pour moi, c'est plus acceptable.
c'est très clair. Alors justement, je voulais vous poser une question qui est plus une question sur le management et pas directement liée au SMS parce que finalement, on n'a pas forcément envie de revenir sur cet épisode, mais plus par rapport à la manière dont sur le contenu du SMS pour le coup. Et je vais poser ma question après. On voit qu'il y a quelque chose d'assez strict, d'assez dirigiste dans la manière dont les choses sont dites à votre groupe. Bernard Lemaître a lui-même révélé
Ce qui
qu'il y
n'est
avait.
pas toujours le cas, parce
C'était la
que
question.
j'imagine, j'imagine. Mais
on
justement,
peut donner une image vous voyez ce que je veux dire?
ouais, tout à fait,
Bon.
mais justement, c'est la
Mais
question.
je l'accepte.
C'est la question. Bernard Lemaître a lui-même dit qu'il avait du mal à comprendre cette jeune génération de joueurs. Moi, je trouve que manager en 2024, dans tous les métiers, hein, pas que dans le vôtre, on doit évoluer, on doit changer.
C'est quelque chose.
La nouvelle génération, elle ne fonctionne pas pareil que la génération précédente. Il faut beaucoup expliquer, il faut leur donner de la liberté, il faut qu'ils s'amusent. Bref, il y a plein de choses qui sont très différentes. Et du coup, je voulais un petit peu savoir, vous, par rapport à ça, comment, avec des joueurs en plus qui viennent de plein d'horizons différents. Justement, vous étiez en train de le dire, et c'est ça la question, c'est quoi le management en 2024 d'un groupe comme celui-là, avec toutes ces dimensions qu'on évoque là, et justement pour casser un peu cette image-là.
2024, pour moi, l'important, c'est de comprendre, de bien comprendre déjà, hein, dans l'institution dans laquelle vous êtes. Là, on parle du RCT, mais j'imagine que dans votre boulot,
C'est
à
pareil.
chacun, c'est la même chose. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, le problème sociétal d'aujourd'hui, on n'échappe pas sur le sportif. C'est même peut-être même un peu exagéré dans le sportif, parce que pourquoi? On est des privilégiés, et je me mets complètement dedans, mais les joueurs quand même. Ce sont des privilégiés où ils ont la chance de bien gagner leur vie, ça, dont je fais partie, encore une fois, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas dans le monde réel, quoi. Ouais, je veux dire, nous, on n'est pas dans le monde réel parce que on est des privilégiés. Donc, avec le problème sociétal que vous voyez, vos collaborateurs, au
Exactement.
niveau de
Hein.
votre boulot, c'est peut-être des fois un peu amplifié, quoi.
Déformé, ouais.
Déformé, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même s'adapter. Il faut que ces joueurs-là, un, comprennent ce que c'est l'institution RCT. D'accord? Parce que s'il y a bien un truc auquel il faut respecter, c'est ça. C'est pas Bernard Lemaître, c'est pas Pierre Mignoni, c'est pas Aurélien Maestrachi, c'est l'institution. Non, mais c'est important parce que
Ah
l'institution, elle est plus forte que vous et moi.
oui. D'accord.
On est
On est
tout
tous
à
en
fait
phase.
d'accord. Et elle est plus forte que le président.
On le
Elle est
dit à
plus forte
toutes
que
les
le
émissions.
président. Elle est plus forte que le président aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que par moment on a oublié ça? Oui. OK? Oui. Donc, mais c'est pas général, c'est pas tout le monde. Parce que dès qu'on dit un truc, on a l'impression que c'est toute l'équipe.
Non,
Bon,
mais ce que vous dites est
il faut
clair.
être un peu mesuré dans ce qu'on dit. Voilà. C'est tout.
Et sur la dimension management pure des gens, etc., est-ce que vous avez dû
Mais.
beaucoup. Alors, je pose la question différemment. Est-ce que depuis que vous étiez joueur jusqu'à maintenant, vous avez vu les choses beaucoup évoluer? Est-ce que vous, en tant que manager, même depuis que vous êtes manager, parce que ça fait quand même un long moment maintenant, est-ce que vous avez changé votre
Oui,
approche?
oui, Oui, parce que même avant, on pouvait se permettre, entre guillemets, d'avoir des discours des fois très durs. Vraiment,
Avec des gros
vraiment,
mots.
et j'en rigole, même.
Passant Bernard Laporte.
Oui, mais Bernard, Bernard c'est une caricature par rapport à ça. Oui, mais ça fait partie encore aujourd'hui, parce qu'il faut rester quand même, il faut rester naturel.
C'est du
Vous voyez ce
rugby.
que je veux dire? Il faut pas non plus jouer, il faut pas jouer un rôle. Ça reste du rugby, ça reste un sport de combat. C'est le même qu'il y a 30 ans, ou 40 ans, ou il y a 20 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question précisément, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pars du principe qu'il faut bien s'occuper de l'individu pour qu'il vous le rende au collectif. Alors qu'avant, on parlait que de
Ouais.
collectif. Voilà la différence.
C'est exactement comme dans les
Pour
autres.
faire une image, pour faire une image assez simple, parce qu'on peut en parler des heures.
Non, mais comme dans tous les métiers, c'est
Voilà.
intéressant ce que vous dites. Merci.
Oui, je disais, Toulon, c'est un village. Tout se sait très vite, surtout par nous, la jeune génération, qui sort souvent la nuit. Nous savons que certains joueurs aiment faire la fête, qui s'en cachent pas sur leurs réseaux sociaux. C'est pas secret. Ce n'est pas nouveau dans le rugby d'ailleurs d'aimer la fête. Même à votre époque, j'en ai conscience. Mais quand ça en vient empiéter sur les performances du week-end, c'est un problème. On a bien vu que certains joueurs ont été mis à l'écart pendant plusieurs semaines sur choix du coach. Quelle est ta méthode pour contrôler ça, votre méthode pour contrôler ça?
C'est très difficile. Les joueurs aujourd'hui, ils sont jeunes, d'accord? Ils ont entre 18 ans et 30, on va dire 33 ans, hein, on va rester sage. Donc ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vivre, mais comme j'ai dit, ils ont des droits par rapport à leur statut, etc. Mais ils ont surtout des devoirs. Et c'est là que il faut être intelligent et comprendre à un moment donné que la première des choses, c'est qu'il faut bien s'entraîner, d'accord? Il faut respecter l'institution, il faut respecter les règles de l'équipe et comprendre aussi qu'ils ont une vie privée, ils peuvent faire certaines choses comme vous le faites vous-même certainement, chacun à son niveau, à son degré, hein? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, on est à Toulon. Pas qu'à Toulon, mais c'est plus difficile quand tu es à Paris, par exemple. Parce qu'à Paris, c'est une grande ville. Moi, quand j'étais à Lyon, c'est des grandes villes. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir contrôler les choses. Mais c'est pas que je ne suis pas leur père. Hein. Je ne suis pas là pour contrôler qu'est-ce qu'ils font après le match, 23h, 2. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il faut que les joueurs soient intelligents, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où où on peut faire les choses, et on doit faire les choses, des fois. C'est plutôt bien. Je suis absolument pas contre. Je ne suis pas le père fouettard à dire non, non, il ne faut pas faire ci. Parce que quand vous faites ça, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'inverse. D'accord? On va comparer ça aux enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'en ai quatre. J'ai quatre filles. C'est déjà très difficile. Ce que je veux dire, c'est que les gens, il faut qu'ils soient responsables. Ils sont professionnels. OK? Ben oui, on a fait un grand match contre Montpellier. On rejoue que 8 jours après, etc. Bon, ben, ils peuvent se permettre de faire un truc ensemble, c'est une bonne chose. On rejoue à 6 jours, on n'a pas de récup, etc. C'est là où il faut prendre soin de soi. Vous voyez, il faut trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. On ne demande pas d'être, j'ai pas envie de dire un prêtre, parce que j'adore les prêtres. Et je pense que même les prêtres aujourd'hui sont plutôt modernes. Mais ils font la fête aussi, et
Font
heureusement.
la fête.
Mais voilà, il faut être mesuré, il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Si on est dans l'excès, forcément, ça va pénaliser les performances et forcément, on n'est pas professionnel, on n'est pas digne de faire ce job-là.
Après, Pierre, vous répétez souvent, on sait où on veut aller, où on va et avec qui on va. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on doit s'entendre dans des changements? Est-ce que ça vise des joueurs sans les nommer ou c'est plutôt un profil de joueur avec qui on veut aller, où est-ce qu'on veut aller?
Profil de joueur avec qui on veut aller et où on veut aller, je sais où on veut aller, mais avec un profil de joueur avec qui on veut aller. C'est-à-dire pour moi, je veux des joueurs qui sont là pour les bonnes raisons. C'est la vérité, on peut pas.
Oui.
Quand je dis ça, je leur ai déjà dit, hein. C'est des joueurs qui sont là pour les bonnes raisons. Pas pour des raisons que financières ou parce qu'à Toulon, il y a la plage, etc. Ça,
Et
c'est.
ça arrive à être perceptible, ça? C'est
Oui,
quelque chose de facilement perceptible?
Oui, on arrive à le voir. Mais ce que je veux dire, ce qui est difficile, c'est quand on recrute quelqu'un. Quand
Eh
on
oui.
recrute quelqu'un, on la voit une fois, deux fois. Moi, j'essaie de la voir au moins trois fois, de parler avec lui. Bon, on a un peu de réseau, hein, à travers à travers le réseau aussi, de bien connaître la personne, mais quand il vient de l'hémisphère sud et tout, c'est plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que au-delà d'un joueur qui soit sérieux et tout, oui, très bien, on veut un joueur qui, vous avez compris, pas forcément un joueur qui soit que sérieux. On veut un joueur qui soit passionné à venir ici. On veut un joueur qui me fasse, qui ait une réflexion sur le jeu, qui ait une réflexion sur l'équipe, qui ait une réflexion, voilà. Et au plus vous avez des joueurs comme ça, au plus vous avez ce qu'on appelle une dynamique d'équipe.
Une émulation de
voilà.
groupe.
Voilà, une émulation de groupe, des joueurs qui s'intéressent, des joueurs qui sont là pour gagner, pour la perf, qui sont autant malheureux que vous quand ça perd, et très heureux quand ça gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des joueurs qui... Voilà, des gens qui sont formatés comme ça, quoi.
Et justement, les deux dernières recrues anglaises, là, Ludlam et Sinclair, est-ce que justement c'est dans ce profil? Est-ce que vous avez senti un intérêt? Je sais que ce sont des joueurs en Angleterre qui sont vus comme étant très professionnels, surtout Ludlam qui était capitaine à Northampton. Voilà. Donc vraiment, ça fait partie de cette nouvelle axe de recrutement qui est basé sur l'éthique de travail,
oui.
J'imagine.
Oui, sur l'éthique de travail, sur l'institution, sur... l'envie de gagner, parce que quand vous êtes dans une pièce que je vous dis, là on est tous les sept et je vous dis qui veut gagner, on va tous lever la main, hein. Donc il y en a qui l'espèrent, il y a plusieurs catégories, vous voyez, je veux dire, il y en a qui y croient pas ou très peu, c'est vrai, hein. Il y en a qui l'espèrent, puis il y en a qui vraiment y croient, quoi, c'est pas pareil.
Et au niveau recrutement pour les lignes arrières, peut-être qu'on a senti que les joueurs style Ilien avaient peut-être plus de mal à s'adapter à un cadre plus strict au niveau de l'attaque. Est-ce qu'on va justement se diriger vers peut-être un style plus européen au niveau des joueurs recrutés
non,
au niveau des arrières?
Non, je ne suis pas d'accord, pardon, je vous coupe Alex, par rapport à ce que vous dites sur l'Ilien. On peut parler d'un joueur qu'on a chez nous qui est Ilien, c'est Jutta Vainikolu. Jutta, c'est un super joueur. C'est vrai que les Iliens en général, on va dire en général, sur la grande globalité, j'en ai eu beaucoup, ce sont des gens, c'est un jeu. C'est des gens merveilleux. Exactement. Parce que vous leur donnez un ballon, c'est un jeu. Vous jouez une finale de top 14, c'est un jeu. Vous allez jouer une finale de Coupe d'Europe, c'est un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super d'avoir des joueurs comme ça, qui sont très dans l'intuition, dans le... Vous voyez? Et Jutta, pour revenir, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il est complètement adaptable dans le système qu'on veut faire. Complètement. C'est-à-dire qu'il faut simplement lui laisser, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cadre qu'on a, parce qu'il faut un cadre, on n'est pas là pour jouer à la baballe. Hein. On est là face à des défenses très organisées, à des équipes très très organisées. Je parle de la perf du haut niveau. Mais il faut libérer son talent, lui garder cette joie de vivre. Je parle de lui, mais il y en a d'autres. Hein. Dans d'autres équipes, et les mettre dans un cadre d'équipe où son talent pourra se faire exprimer. Donc, ce n'est pas un problème uniquement d'être européen ou pas. C'est un problème d'adaptation. Jutta, il sait très bien qu'il a un travail à faire sur certaines choses, où je veux le voir bien plus consistant dans des secteurs, comme un autre joueur, comme Gabin Villière, par exemple, doit avoir... Lui aussi, ses bases de travail très individualisées par rapport à leur profil. Donc, vous voyez, je veux dire, il ne faut pas le mettre.
Bien sûr.
J'aime pas ce côté-là par rapport aux origines ou par rapport à. Non.
Oui, non,
voilà.
Je comprends bien.
C'est pour ça que.
C'est juste que ils ont. On va dire que le rugby, est, comme vous l'avez dit, est vu différemment.
Tant mieux.
Voilà, dans certaines régions, ce qui apporte un plus. Et c'est par rapport justement à la nouvelle structure de jeu, voir si ça pouvait.
Mais ça, c'est le profil d'Aguilière est plus défensif qu'un Vainikolo sur le profil. Et donc, du coup, est-ce qu'on veut une ligne plus défensive, plus agressive, ou justement du jeu de la vitesse? C'est ce qu'on avait un peu l'an dernier. Non, c'est la différence peut-être entre les deux années.
Oui, mais Jutta, il sait très bien qu'il doit aussi progresser dans des secteurs qui sont indispensables. Mais il n'y a pas que lui.
Enfin, c'était pas visé pour un joueur, hein, c'est une manière
non,
générale.
Je sais, mais c'est pour ça qu'on parle de lui. Gaël Dréan, il a des objectifs très précis au poste sur ce qu'il doit faire. Puis, il y a des bases, des standards qui sont... Il y a un minimum, hein. Il y a un minimum, hein. Donc après, on le fait plus ou moins bien, et voilà.
Et dernier mot sur le recrutement. On a entendu parler de la rumeur de Lucchesi, le talonneur italien. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est un joueur qu'on suit?
C'est un joueur qu'on regarde, oui. C'est un joueur qu'on regarde. Il n'y a absolument rien de fait. Mais c'est un joueur qu'on regarde. C'est un joueur que je suis beaucoup avec le championnat italien, et, enfin avec Trévise et le Six Nations, bien sûr.
D'accord.
Voilà, on verra.
D'accord. Pour parler un peu des minots du club, Jules Coumont a annoncé début mars dans le middle sa prolongation prochaine. On en est où?
De qui, pardon?
Jules Coulon.
Jules Coulon.
Jules, c'est en discussion. Je sais qu'il discute. Il discute avec le club. C'est quasiment acté. Voilà, c'est pas signé, mais c'est en bonne voie. Ouais. C'est en bonne voie.
Ouais, pour redorer le blason du centre de formation toulonnais, au-delà du travail entrepris par Cédric Béal, il y a aussi le fait de donner de la place aux jeunes talents du centre, du genre Kerkeraba, Amtela, Mezou, Koui. Quel est le plan d'intégration pour eux? Peuvent-ils espérer être numéro 3 à leur poste d'ici un ou deux ans?
Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif qu'on a sur le sportif. Mais l'objectif de ça, pour réussir cet objectif, il faut qu'on ait bien sûr la capacité de leur donner tous les moyens pour réussir. Parce que souvent, on ne fera jamais 100%. D'accord ? Le but, c'est qu'on se trompe le moins possible. Mais faire 100% dans ton effectif et dans ton recrutement, il faut s'en approcher parce que ça coûte cher quand on se trompe. Et on le paye après. Donc c'est pas... Le but, c'est de donner le maximum pour que les joueurs atteignent leur meilleur potentiel, leur meilleur niveau. Mais on ne pourra pas garder tout le monde. On ne pourra pas promettre tout à tout le monde. Ça, c'est le monde des bisounours, ça n'existe pas. Les joueurs qui ont le niveau, Mathias Alagahu, Matteo Le Corvec, ils ont un certain niveau aujourd'hui, à l'heure où je parle. Pour moi, il n'est pas encore atteint au maximum. Il n'est jamais au maximum. En tout cas, ils sont encore en développement. Ces garçons-là, ils doivent avoir du temps de jeu. Est-ce qu'ils en ont? Oui. Est-ce qu'ils peuvent en avoir plus? Oui. Après, c'est des choix de coach, c'est des choix d'équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas le niveau, c'est pas parce que tu es d'ici ou formé ici que tu dois jouer. Moi, je ferai jouer des joueurs qui ont le niveau, que je considère qui ont le niveau, qui ont la capacité à jouer. D'où l'intérêt de faire un gros travail qu'on est en train de faire, on pourra en parler après, sur notre formation, on va dire, régionale.
Alors justement, quand on regarde finalement les minots qui ont réussi à percer, à part Jules Coulon qui est un peu une exception, tous les autres quasiment c'est des Varois, c'est des Toulonnais. Est-ce que c'est lié un peu à la structure du centre de formation où aujourd'hui, soit ils dorment chez eux, soit ils dorment dans un dortoir ou chez l'habitant? Et est-ce que ça peut parfois retenir un peu les parents de nous confier leurs enfants? Est-ce que finalement, on est plus en difficulté que d'autres clubs pour arriver à attirer les meilleurs talents en dehors du Var?
C'est une bonne question. Le logement aujourd'hui est un vrai souci. Le foncier ici est très cher, vous le savez. C'est pas simple. Le club n'a pas de foncier par rapport à ça. Vous savez, vous avez compris la réunion du président. Par rapport au foncier, j'imagine que vous avez des questions sur ça. On y reviendra après. Mais on n'a pas de logement aujourd'hui. On a d'autres trucs qu'on n'a jamais eu. Hein. Le club n'a jamais eu un euro de foncier. Sauf le stade Mayol, qui était à Félix Mayol, qui nous a offert, vous le savez très bien, et qui a été après redistribué à la ville. Mais on n'a jamais eu de foncier jusqu'à l'ère Bernard Lemaître. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ce que je veux dire, c'est que pour répondre à la question des logements, aujourd'hui, on ne l'a pas encore aujourd'hui. C'est très difficile. On est en train de mettre des choses en place, à travers des lycées, à travers des collèges, pour qu'on puisse accueillir nos jeunes en toute sécurité et que les parents, parce qu'aujourd'hui, quand tu es parent, tu as envie de savoir, ok, le rugby, c'est bien, mais où mange mon fils? Où il va à l'école? Et est-ce qu'il va réussir en tant que personne? Et après, il y a le rugby. Donc, on est en train, et tu vois, c'est des sujets que j'aimerais que vous parliez, que vous nous aidiez à développer. Un sujet qui s'appelle RCT Passion, vous avez certainement dû en entendre parler. Oui. C'est dommage parce que vous n'en parlez pas beaucoup. Et c'est un sujet qui est très, très, très intéressant et très important pour le développement de notre club. C'est quoi RCT Passion? Il y a deux volets, même trois. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Le premier, c'est on a recréé beaucoup de liens avec les clubs de la région. Je vais passer les clubs. Hein. On a beaucoup de clubs qui sont en partenariat auxquels on a recréé du lien. Recréer du lien, c'est quoi? C'est vraiment recréer de la confiance. Okay, et je pense que ce travail-là, on a réussi à le faire parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de ces jeunes joueurs, à ce qu'ils basculent chez nous. Pourquoi on avait un peu une image de pilleur, ce qui était vrai. C'est-à-dire qu'on prenait, mais on ne donnait pas. Aujourd'hui, on est plutôt dans, OK, on prend pour telle et telle raison à partir de tel âge, et on vous donne, on donne, quand on dit on donne, ce n'est pas de l'argent, c'est beaucoup de choses, plein d'actions, on pourra le développer à un autre sujet si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, le lien est recréé avec ces clubs-là. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais en tout cas, c'est bien acquis. Ensuite, il y a un deuxième volet, il y a ce qu'on appelait RCT Passion scolaire, où là, on a travaillé avec les collèges. On fait un travail incroyable au niveau de la quatrième et de la troisième. On a regroupé trois collèges que je vais citer. Un qui s'appelle La Navarre, que vous devez connaître, qui est à l'accro, et deux autres, Django et Bon Accueil, qui sont au Mourion, là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des sections sportives grâce à ces proviseurs qui sont extraordinaires, qui nous ont aidés grâce à l'éducation nationale. Et on a intégré le RCT dans l'éducation nationale, chose qu'aucun club n'a fait. Et ça, on a pu le faire grâce à l'éducation nationale. Donc, c'est parti cette année avec la classe de troisième, donc avec avec la catégorie des Goderman, et l'année prochaine avec les moins de 14 pour la quatrième. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé sur ces trois collèges les effectifs de nos catégories, où ils sont libérés à 15h, 15h30, et ils font du rugby dans les collèges RCT. Entraîneurs RCT et joueurs RCT. Voilà, donc tout ça, c'est bien beau, mais on l'a mis en place, ça fait qu'un an. C'est des choses qui vont se mettre en place, je l'ai dit, de la catégorie des moins de 14 jusqu'au Crabos, avant ce qu'on appelle le centre de formation, où ensuite ces joueurs-là, on espère, vont pouvoir bénéficier de cette formation où ils vont pouvoir faire leurs études, parce que le but, ils ne seront pas tous professionnels. Demain, ils vont basculer dans une vraie vie, dans la vie active, où ils seront des joueurs de Pro D2, ou des joueurs de national, des joueurs de fédéral, peu importe. Mais en tout cas, on va les amener à être des hommes bien, avec une éducation rouge et noir. Voilà. Voilà l'objectif de ça. C'est un gros, gros, gros boulot. Je pourrais vous le détailler si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on en reparlera dans 4-5 ans. Vous allez me dire, ouais, dans 4-5 ans. Mais on n'est pas
On sera là,
magicien,
on
hein. Les
sera
choses, elles se font. Hein. Voilà. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'association fait un gros travail. Mais aujourd'hui, ça
là.
suffit plus. Donc, la SASP et l'association, ce sont deux identités qui n'ont pas toujours fonctionné main dans la main. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, on fait tout, tout pour que les choses se passent au mieux. Parce que c'est un vrai frein. Vrai frein.
On entend dire en tout cas hein, que Cédric Béal fait un gros boulot. Je sais qu'il a, il a.
Oui, mais Cédric, c'est déjà,
Oui, c'est
excuse-moi,
déjà le centre de
Aurélien,
formation. Ouais.
c'est déjà le centre de formation. Je veux que les joueurs, quand ils arrivent dans ce fameux centre de formation, il y en a 30 exactement, il faut qu'on ait potentiellement 30 joueurs, potentiellement, soyons humbles, on va dire entre 20 et 30 joueurs capables d'être troisième, quatrième, troisième, premier demain avec cette équipe professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons des joueurs dans notre centre de formation, et je le dis très honnêtement, qui ne seront jamais professionnels en top 14 à Toulon. Donc ça veut dire qu'on met de l'argent dans des gens auxquels on n'aura pas le fruit de ça. Encore une fois, on ne peut pas faire
Oui, c'est
100%
sûr.
sur ces 30 joueurs. Mais je pense qu'on peut s'approcher. Vous m'avez parlé de 4-5 joueurs tout à l'heure. Vous êtes bien informé. Ces 4-5 joueurs, l'année prochaine, déjà s'entraînent un peu avec nous cette année. Les prochaines sont complètement
D'accord.
avec nous. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura entre à peu près une dizaine. D'accord?
Je me permets de revenir du coup sur ces 4-5 joueurs. Joey Kerry-Karaba, on a eu une rumeur comme quoi il était approché par
Oui,
Agen.
oui.
On fait. Voilà.
Joey. Ouais.
Du coup, comment on peut garder
Mais
des joueurs
Joey.
comme ça, quoi?
Joey, c'est quelqu'un que j'ai reçu son agent la semaine dernière, je l'ai vu. Il est clair que Joey, on a deux écoles. Ou soit on le garde encore un an avec nous, minimum, et je veux qu'il fasse, lui, ce qu'il n'a pas fait, une formation complète avec nous, c'est-à-dire une pré-saison, des entraînements quotidiens tous les jours. Sauf que lui, il arrive à un âge où il veut jouer, quoi, hein, c'est normal. Mais si devant lui, j'ai 3-4 joueurs devant lui, bon, vous allez me dire, il va jouer quand? Donc peut-être que ce
Monsieur.
joueur-là, sans qu'on le perde, si on croit en lui, à partir du moment où on met, excusez-moi l'expression, un peu de sous sur lui, et qu'on dit ce joueur-là, on le ressigne sur 2 ans et on le prête dans un club de Pro D2 ou de
Il sa
national, parce que
gueule.
nous avons des joueurs en espoir qui n'ont pas le niveau de national. Demandez à Grégory Le Corvec qui est à côté, il va vous dire, mais il y a des joueurs qui ne jouent pas chez moi. Il faut se rendre compte de ce qu'on dit. Donc, comment voulez-vous qu'il joue avec moi? Alors, je parle.
Non,
je
bien
parle,
sûr. Encore, non, mais c'est transparent. Fois, je c'est très transparent. Hein.
De, encore encore une fois, je parle de certains profils de joueurs. Puis, on a des joueurs comme Kowi, vous l'avez cité. Voilà. Et d'autres qui sont pas loin. Ces joueurs-là, ils ont besoin de rester encore en développement pour essayer de les amener à un certain niveau. Et ensuite, à moi de leur donner leur chance pour qu'ils puissent s'exprimer comme il y a eu Mathias et d'autres. Hein, voilà.
Voilà. Et juste, vous avez donc fait une petite par rapport au foncier, vous avez dit pour l'instant, sous-entendu, peut-être ça pourrait changer demain, il pourrait y avoir un investissement du club sur un bâtiment. Je sais que certains clubs ont fait vraiment des centres de formation tout inclus, finalement. Ça pourrait être ouais. ça.
Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de clubs qui ont ça. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est pas si vrai que ça. Il faudra poser la question au président. Il a mis déjà beaucoup d'investissements au sein du club. Je sais que vous avez des infos sur ça, mais quand même, la vraie info, Pascal, je vous vois rire, mais la vraie info quand même, c'est que tout le clubhouse, tout ce qui appartient ici, appartient en pleine propriété
oui,
au club.
Oui, oui,
oui. En pleine propriété au club. Donc ça, c'est une vérité. Alors, après, il y a des charges. Je sais très bien que vous allez parler de tout ça, et vous avez raison. Mais quand même, je parle de propriété là, ce qui est mon rôle à moi, hein, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça appartient au RCT. Pas à Bernard Lemaître, par contre, ça a été payé par lui.
Alors juste...
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi aujourd'hui de lui dire « je veux des logements, rajouter encore tant de millions, vous voyez, est-ce qu'il y a 2 mètres ?» On va essayer d'avoir un peu des résultats, de se débrouiller aussi sur le RCT Passion Scolaire, de trouver des aménagements pour qu'on puisse, parce qu'on a le... C'est pour ça que la Navarre est très impliquée, parce qu'on a des logements là-bas. On a mis un système de navette. Pardon, je finis sur le projet. On a mis en place un système de navette qui rassemble tous ces joueurs des 3 collèges pour les amener aller au Lagrange ou au Morion là-bas pour s'entraîner. Vous voyez, avec un partenariat avec la TP qui est quand même très très important. Voilà.
Alors, on ne comptait pas forcément aller sur le sujet de l'investissement, mais c'est juste parce que vous en parlez. C'est vrai que c'est Bernard Lemaître, et à juste titre, rappelle souvent l'investissement qu'il fait. Et finalement, il vient combler un déséquilibre que l'on a aujourd'hui sur le budget de 10-15 millions par an. Et moi, j'étais très surpris hein, quand il a révélé qu'on était 13e sur 14 en termes de revenus. Je ne pensais pas effectivement que c'était à ce point. Ça veut dire quoi? Qu'il y a urgence là aujourd'hui vraiment de renouer avec le oui. peuple toulonnais? Parce que ça passe par ça, je pense.
Oui, bien sûr, ça passe aussi par l'économie réelle. Quoi. L'économie réelle, c'est les investissements qui sont faits, il faut rentrer de l'argent. C'est la brasserie, c'est les séminaires, c'est tout ce qu'il a mis en place pour que demain on soit bénéficiaire. Il faut réduire ses charges, c'est évident. Il faut arriver à un équilibre financier, qu'on mette plus la main à la poche, quoi, en gros. Hein. Alors, il y a très peu de clubs aujourd'hui qui font des bénéfices. J'en vois pas beaucoup. Je suis pas comptable, je reste dans mon domaine de compétences. Je connais un peu le milieu, il y a très peu de clubs qui sont, on va dire, en excédent chaque année. Quoi.
Non, non, mais bien sûr, Pierre, et je pense que ce n'était pas le sujet. Non, je me suis permis de sourire tout à l'heure parce que je vois que vous suivez aussi ce qu'on peut raconter de temps en temps, mais c'est effectivement ça notre point, c'est ce que vient de rappeler Aurélien, c'est qu'en fait, là, on sent que le déficit est structurel, il est assez profond. Donc effectivement, ce qu'on se disait, nous, c'est que ça doit absolument se réajuster. Alors après, effectivement, comme vous le dites, c'est pas, enfin voilà, il s'agit pas de passer de -10 à +10, on n'est pas débile, mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et merci de nous confirmer.
Ce que je peux vous dire, Pascal, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le président lui-même est en train pour chaque secteur. Quand je dis chaque secteur, ben le sportif, on est un peu la grosse dépensière. Hein.
Ça commence par évident. Là.
Ça commence par
la locomotive.
Mais ce qu'on ne peut pas faire et ce que le président ne veut pas, c'est réduire notre masse salariale, c'est-à-dire le salary cap. Hein. Je parle de ce qui fait fonctionner l'équipe. Ça, il est hors de question de baisser ça. Parce que ça serait facile de dire, au lieu de, on coupe de 5 millions, Pierre, tu te débrouilles, au lieu d'avoir 11 millions et quelques sur le salary cap, tu n'en as que 8.
Oui, sauf il pourrait le faire. Sauf que si le sportif ne marche pas, ce n'est pas viable non plus.
Exactement.
Donc, c'est un équilibre, évidemment.
C'est un équilibre, sauf qu'il y a des clubs qui n'ont pas le choix. Hein. Moi, quand j'étais à Lyon, je suis désolé, la première année où on remonte en top 14, mon président m'a dit, tu as ça de budget, tu n'as pas un euro de plus. Voilà. Donc, après, il m'a augmenté le budget pour atteindre le fameux salary cap, mais les 2-3 premières années, c'était chaud. Quoi. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas du tout notre cas. Ce que je veux dire, c'est que le président veut absolument maintenir notre salary cap au plafond, voire plus, puisque tu as un droit à dépenser avec des joueurs internationaux,
ouais,
ce qui n'est pas, ce qui n'est pas un budget, c'est un droit à dépenser par joueur. Donc ça, on va aller au bout du bout. Maintenant, effectivement, il faut réduire les charges. Les charges, ça me concerne aussi, hein, c'est les charges sportives. Dans le sportif, il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, le président est en train de tout remettre à plat dans tous les services. C'est tout ce que je peux vous dire.
Mais alors justement, ça me permet de rebondir sur le sujet, parce que effectivement, on sait que le top 6, bah, vous parliez du sportif, on s'en fout pas, et vous nous confirmez effectivement que les investissements lourds
alors, vous
vont être continués. Non, je vous laisse la parole, Pierre.
Mais non, branché, parce que j'ai dit qu'on s'en fout.
Ouais,
du top 6. Vous savez pourquoi
je vous branche un tout petit peu.
C'était la question qui est arrivée juste au moment où vous alliez prendre la parole sur le SMS, et cette question, elle vous a gonflé, vous avez voulu la... Voilà, exactement. Je l'ai vu en direct.
Voilà, Aurélien, merci. Mais quand un journaliste me pose une question comme ça, il se fout de ma gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Évidemment. Donc, on a bien compris.
Donc, voilà,
c'était humoristique, hein. J'espère que vous l'avez compris. Vous
voyez bien que le top 6, je m'en fous pas du tout.
Évidemment.
Croyez-moi. Donc, mais on fera les comptes à la fin. Pour l'instant, on n'y est pas. Il reste 6 journées. Et croyez-moi que le top 6, je m'en fous pas. Ça, c'est évident.
Ouais, on en était bien persuadés. Justement, alors, peut-être, alors, sans parler forcément des ambitions de fin de saison, parce qu'on comprend bien que de toute façon, vous allez essayer de faire le maximum et d'aller le plus loin possible. C'est pas une question, ça. Par contre, ce qui peut être une question, c'est plus par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Vous en avez parlé pas mal pendant toute l'interview, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes dans lesquelles vous voulez renforcer votre projet, des axes d'amélioration un peu macroscopique sur lesquels vous vous dites là maintenant on est en train d'arriver, on l'espère en tout cas, à s'ancrer dans ce top 6, et comment on va encore plus loin, aller chercher un Brennus ou aller chercher plus loin aussi en Coupe d'Europe. C'est pas pour parler du résultat sportif, mais globalement comment on arrive à aller encore plus loin par rapport à quelque chose qui est en train de se dérouler.
Ben, pour moi, c'est garder sa stabilité un peu dans l'effectif. Il y aura des départs, hein. Des gens qu'on ne voudra pas garder ou des gens qui ont déjà acté des départs, c'est la vie. Mais on veut garder quand même ses forces vives. Donc le premier recrutement était là, re-signer ses joueurs, stabiliser son effectif avec des joueurs avec qui on veut aller au bout, quoi. Avec qui on veut travailler, avec qui on reparle d'éthique, avec qui qui sont très sensés sur le projet, sur la mission. Voilà. Et ensuite, c'est se renforcer avec d'autres joueurs qui vont arriver pour avoir une plus-value, pour avoir une équipe meilleure demain. Voilà. Mais je suis confiant déjà avec ce qu'on a. En aucun cas bâcler quoi que ce soit. Je parle de cette saison en tout cas.
Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être avoir la parole sur un dernier mot, peut-être, si vous voulez vous adresser aux supporters qui écoutent et ils sont assez nombreux. Est-ce que vous voulez peut-être avoir... Voilà, un dernier mot de votre côté.
Non, moi
oui.
Ah oui, non, mais merci. Mais non, moi, ce que je veux, c'est que, voilà, c'est qu'aujourd'hui, je comprends les réseaux sociaux, je comprends qu'on est dans un monde qui change, parce qu'il y a 20 ans aussi, on ne voyait pas ça. Hein. Donc, il y avait beaucoup moins de bruit, quoi. Il y avait beaucoup moins de bruit, il y avait du bruit, mais différemment. On pouvait se faire huer dans un stade. Hein. Je l'ai vu à Bayeux, hein, c'est arrivé. Hein.
Bien sûr.
Voilà, je l'ai vu dans d'autres stades. Donc on sentait très bien que le mécontentement aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de poster un truc, de faire une vidéo, etc. etc. Ça, c'est une chose. Il faut vivre avec son temps. Je l'accepte. Par contre, ouais, quand c'est bien aussi, il faut aussi le dire. Et pas toujours que quand c'est mal. Parce que la solidarité, à un moment donné, il la faut entre tout le monde, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et les mauvais moments, je répète, c'est pas pour dire, faut dire amen à tout. Non, c'est dire, on n'est pas content, pourquoi? On explique, on se remet en question, moi le premier, les joueurs aussi. Mais il faut aussi que tout le monde se soit dans le même truc, quoi. On peut plus avoir, je cherche pas le monde des bisounours où on s'embrasse tous sur la bouche. Mais quand même, il faut arrêter de se diviser. Parce que si demain on va avoir un club meilleur, il faut une communication meilleure. Il faut qu'on soit meilleur sur l'aspect financier, il faut qu'on soit meilleur sur l'aspect sportif, mais il faut aussi qu'on soit meilleur tous ensemble. Voilà. Et il y a des gens qui prennent beaucoup de temps, je ne parle pas de moi, hein. Je parle des gens qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de leur personne. Ben voilà, Et pareil chez les supporters. Hein. Je connais des supporters, j'ai des amis qui, je suis désolé, ils partent en vacances pour venir me voir jouer. J'ai des amis qui sont très proches de moi et voilà, ça c'est une vérité. Donc voilà, il faut, on est tous dans le même bateau et j'ai envie qu'on arrive à se fédérer, et avoir une vision en tout cas où on sait où on va et pas ce truc de se dire mais qu'est-ce qu'ils font, c'est nul. Voilà. J'espère en tout cas qu'on va montrer notre image dans un futur proche.
Je pense que les échanges comme celui-ci participeront beaucoup, je pense, au fait que cette unité va revenir, parce que c'est important effectivement pour tout ce qui arrive pour le club.
Prenons un pari, si Toulon se qualifie pour les quarts, on se refait une petite demi-heure d'interview pour parler du sprint final, Pierre?
Pas de problème.
Merci Pierre, en tout cas avec du
d'avoir
coup beaucoup
accepté de jouer
d'échanges
le...
positifs.
Non, mais merci d'avoir accepté de jouer le jeu parce que vous saviez qu'on allait essayer d'aborder un peu toutes les questions. Et donc voilà, et ça s'est fait dans les conditions du direct en plus. Donc parfait. Merci beaucoup d'avoir joué
Non,
le
ben
jeu en tout
merci
cas.
à vous et surtout, pour finir, pardon, je conseille aux gens de venir. S'il y a une invitation, il faut venir. Et les clubs supporters, moi, je les ai reçus, ils sont venus. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé. Il y a plein de dossiers auxquels on n'a pas parlé aujourd'hui, mais Mayol, par exemple, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mayol, c'est notre stade, c'est notre cœur, mais ce cœur-là, il faut qu'il tape, quoi. Il faut qu'il batte fort à l'intérieur, il faut qu'il batte fort autour du stade Mayol, malgré les contraintes qu'on a, les contraintes de sécurité. On a besoin d'avoir un lieu de vie où vous vous retrouvez ensemble avant le match, après le match. On a besoin de tout ça. On peut plus aujourd'hui aller voir un match et partir. Oui, je veux dire, on a besoin de cette proximité, on a besoin de cet échange. Et voilà, c'est tout ça qu'il faut retravailler. Il y a du boulot, hein, mais voilà.
Et puisque juste pour terminer là-dessus, puisque vous en parlez de Mayol, c'est vrai qu'on se l'était prévu, puis avec la discussion, on ne l'a pas forcément abordé, mais vous comprenez les gens qui s'y retrouvent moins. Je sais que Seb, tu es abonné au stade, tu y es. Je sais que toi, quand il y a des gens qui font la hola alors qu'on est en train de prendre 30 points contre le Munster, ça t'a rendu fou. Tu es parti, tu étais presque les larmes aux yeux. Est-ce que, alors après, certains, c'est les danseuses, les speakerines, les bandas. Vous comprenez, Pierre, finalement, les gens qui trouvent que Mayol commence à ressembler à tous les autres stades et qui ont du mal à accepter ce changement-là aussi?
Je comprends. Je comprends. Pareil, pour moi, c'est pas des compromis que je cherche. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre nos valeurs dont on parle, que vous avez parlé là, et l'aspect, on va dire, moderne, comme ça qu'on dit, l'aspect un peu moderne qu'il faut dans un stade pour attirer un certain public, etc. Faut pas se tromper. On est à Toulon. Là aussi, on a eu peut-être fait des erreurs. Ou de communication, ou autre. Vous avez parlé d'exemples de danseurs, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites et acceptées par le public toulonnais. Mais il y a des choses qui doivent toujours rester là. Voilà, je pense que l'équilibre, il est là. Vous pouvez pas dire, on doit jamais avoir de danseuse à Mayol. Je pense que c'est une erreur. Mais à la fois, on doit garder notre identité. Voilà, notre identité, c'est quoi? Ben, à nous de bien les écrire, de bien les définir.
C'est vrai que juste pour terminer là-dessus, il y a un terreau particulier à Toulon qui est qu'on est différent, on aime être différent, on aime être un peu des rebelles et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre finalement.
Bien sûr qu'il ne faut pas le perdre. Mais voilà, ça veut dire quoi? Être différent, être rebelle.
Être
Oui,
tourné.
mais voilà, il faut. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, il faut le mettre en évidence dans ce stade. Il faut que les gens le ressentent. Mais à la fois, ça n'empêche pas qu'il peut avoir des danseuses à un moment, peut-être un peu plus loin du stade. Au plus, je pense, au plus, on va s'approcher. On en a parlé avec les supporters, les clubs de supporters. Au plus, on va s'approcher du match. Au plus, il faut qu'on ait notre identité, en fait. C'est comme ça que je le vois. Au plus, le coup de sifflet final arrive. Bon, le pilou-pilou, c'est bien sûr juste avant le coup d'envoi. C'est la dernière lame de nos valeurs. Mais le pilou-pilou, souvenez-vous, il y a très longtemps, on ne le chantait pas à Mayol.
Tout à fait.
Ouais, bien sûr.
D'accord? Le pilou-pilou, moi, je l'ai appris. C'est Marcel Brodéro qui me l'avait appris quand j'avais 12-13 ans. Mais on ne le chantait pas. C'est nos générations après qui l'ont chanté dans les vestiaires et qui a été repris après. Donc, on ne peut pas dire que le pilou-pilou, déjà, ce n'est pas un chant toulonnais, d'accord, qui a été repris par des lycéens, etc. Et Marcel Brodéro l'avait retravaillé et tout. Non, mais c'est une vérité.
Oui, c'est vrai.
Il faut
c'est
aussi
vrai.
Comprendre. Il faut aussi comprendre l'histoire.
Donc, mais...
Après, le coup de
mais,
temps,
mais hein, c'est ce que vous dites, Pierre, en fait, quelque part, c'est ce qu'on ressent et on comprend mieux, là, du coup, là, ce que l'angle. Mais c'est vrai qu'avant, il y a encore pas si longtemps, les équipes adverses avaient vraiment peur de venir jouer à Toulon, vraiment peur de rentrer à Mayol. Ouais. Et on sent que c'est moins le cas. Et tout ça, ça fait partie des choses où nous tous, hein, je pense, supporters, on a l'impression qu'il y a un truc qui se délite. Donc, j'entends ce que vous dites, mais du coup, je pense que c'est un peu cette identité-là qu'on voudrait tous garder. Et je pense que c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, mais voilà, c'est important.
Je suis entièrement d'accord, Pascal. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on discute ensemble. Qu'est-ce qu'on veut avec la direction du club? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Parce que là, on vient de Bayonne. On était à Bayonne. Enfin, à Bayonne, on était à Noëta. Non, mais les autres avancent, hein. Vous allez à La Rochelle, c'est plein. Vous allez à Bayonne, c'est plein. Bayonne, ils ne sont pas promis les championnats. Et croyez-moi, je suis rentré, c'était un bonheur de jouer là-bas. C'est leur culture, bon, leur chant, etc. Mais c'est Bayonne, c'est leur culture. La nôtre, on l'a quand même. On ne peut pas l'inventer, on l'a. On n'est pas un club nouveau. On est un club où on a notre identité. Donc, ben, on peut dire ensemble, avec la direction, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Au coup de sifflet, avant le coup de sifflet, une heure avant, 50 minutes avant, autour du stade, toutes ces choses-là, sans copier les autres, parce qu'on a largement notre identité, notre force.
Merci. Et je pense que ça... Merci.
Juste pour Pascal, pour terminer, je pense que ça... Bon, là, on en parle 2 minutes, mais on n'a rien résolu. Donc, on peut en parler avec la direction, et ça, c'est pas moi. Moi, je peux faire le lien, c'est tout, mais... Et puis derrière, on se met tous ensemble sur une vraie politique de ce qu'on veut, de notre identité. Et là, on va franchir un pas parce que tout le monde, du moins tout le monde, parce que c'est compliqué de faire l'unanimité, mais en tout cas, la quasi-totalité des supporters comprendront la vision.
En tout cas, le message est passé et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens l'appellent de leur vœu. Donc, c'est très clair.
Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Merci à tous.
Merci beaucoup. Allez Toulon.
Merci. Merci.
Et bisous.